France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps, en Grèce, le soir tombe. Une longue veillée d'armes va commencer. Les jeunes arrogants qui, chaque jour, occupent le palais d'Ulysse, qui viennent y faire la fête en dévorant la viande de ses troupeaux, en buvant son vin, sont rentrés chez eux pour la nuit. Ils reviendront le lendemain pour à nouveau chanter, danser, ripailler et affirmer de manière tonitruante le droit qui est le leur, pensent-ils, d'épouser la femme d'Ulysse, la très belle Pénélope. Cela fait 3 ans que ces jeunes gens arrogants et consommateurs effrénés passent ainsi toute leur journée. Ulysse a disparu. On est sans nouvelles de lui depuis maintenant 10 ans. Il peut donc raisonnablement être compté au nombre des morts. Et il est légitime, après tout ce temps, que sa femme prenne un autre mari. Sauf que, ce soir-là, Ulysse est présent dans son palais.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Il est revenu chez lui, méconnaissable. La déesse Athéna l'a transformé en un petit vieux misérable, en mendiant. Personne ne peut deviner qu'il s'agit d'Ulysse, enfin rentré. Seul son fils, Télémaque, a eu droit à la révélation. Son père lui a dit qui il était. Ulysse, sous l'apparence d'un mendiant, est venu chercher de la nourriture dans son propre palais pour provoquer les prétendants, pour les connaître et les jauger. Ces prétendants, il ne les connaît en fait pas. Ce sont les fils de ses anciens amis. Ulysse veut savoir qui il aura à affronter. Il a construit tout un plan guerrier avec son fils Télémaque. Il sait qu'il aura le soutien infaillible de la déesse Athéna, qu'il a longtemps protégée pendant la guerre de Troie et qui a pris en main sa reconquête du pouvoir chez lui, à Ithaque. Mais c'est sans compter sur Pénélope. Elle ignore tout du retour de son mari. Ulysse et Télémaque ont décidé que vaincre les prétendants, les armes à la main, était une affaire d'hommes. Ils la tiennent à l'écart. Mais Pénélope va jouer un très grand rôle dans la victoire d'Ulysse, un rôle inattendu. Elle va changer le cours de l'action qu'avaient prévu Ulysse et son fils. Pénélope sait capter les signes mystérieux, obscurs, qui annoncent sa délivrance prochaine. Et elle sait agir en conséquence. Plus tôt dans la journée, un devin inattendu, venu de l'étranger, lui a assuré qu'Ulysse était là, tout proche. Ce n'est pas une preuve, mais un indice. Et quelque chose de nouveau a eu lieu dans sa propre maison. Un mendiant inconnu est arrivé au palais. C'est Ulysse. Il prétend savoir des choses sur Ulysse. Or, au moment même où Pénélope parle de ce mendiant, se produit un signe spectaculaire, tonitruant, dont nous avons déjà parlé. Télémaque part dans un grand éternuement qui ébranle toute la maison. Un éternuement, c'est un signe des dieux. Et Pénélope, surprise, éclate de rire. Une rupture décisive a lieu dans la tristesse qui est la sienne depuis des années. Pénélope a compris que les dieux ont annoncé une délivrance prochaine. Elle demande à voir immédiatement ce mendiant qui est à l'origine de ces signes extraordinaires. Mais Ulysse refuse de la rejoindre tout de suite. Il prend son temps. Il veut être maître des horloges, tout contrôler. Il donne comme prétexte qu'il a peur de traverser la grande salle où les jeunes prétendants, des méchants, déploient toute leur arrogance. Il ne se présentera à Pénélope, qu'il n'a toujours pas vue, qu'au soir, avec le coucher du soleil. La grande scène de la rencontre, de la confrontation entre les deux époux après 20 ans de séparation, est donc reportée à plus tard. Homère, qui raconte toute cette histoire, nous oblige à attendre. Toutes les questions qu'on pouvait se poser, comment va réagir Ulysse devant sa femme, vont-ils se reconnaître, se méfier, vont-ils continuer à ruser, tout cela doit encore rester sans réponse. Homère va nous faire patienter. En faisant comme éclater son récit, il va s'amuser. Les choses sérieuses ne recommenceront que plus tard, quand Ulysse et Pénélope seront en face à face à la tombée de la nuit. Avant, il reste quelques heures à passer. Rien de décisif ne peut avoir lieu. Homère en profite alors pour faire de ces heures des moments de comique et de dérision. Tout le drame d'Ithaque, drame qui va être très violent après des années de tristesse, se rejoue sur un mode caricatural, comme dans un théâtre de marionnettes. Les deux grands héros de l'histoire, Ulysse et Pénélope, vont montrer tout ce qu'ils savent faire, mais par jeu, avant que la vraie crise ne soit dénouée. Ulysse va se livrer à un combat, non pas contre les prétendants, ça c'est pour le lendemain, mais contre un pauvre bougre, un mendiant qui ne supporte pas de voir qu'un étranger prend sa place et son gagne-pain. Ulysse l'assomme d'un coup, sans difficulté, et cette bagarre entre gueux fait rire aux éclats tous ses ennemis, qu'il voudrait bien démolir, comme il a démoli ce pauvre misérable. Pénélope, quant à elle, mène un autre jeu. Elle se montre éclatante de beauté aux prétendants, qui n'en peuvent plus de désir, alors qu'elle les trouve répugnants. Elle cherche à les provoquer, à se moquer d'eux. Elle sait par les signes qu'elle a reçus que le jour décisif approche, qu'il va se passer quelque chose de totalement nouveau, d'énorme. Elle est prête pour l'événement, même si elle ne sait pas ce qu'il sera. Elle le provoque. Elle annonce aux prétendants que le lendemain, elle cédera à l'un d'entre eux. Elle le choisira comme époux, mais elle met une condition, qu'il se comporte en vrai soupirant, qu'il la couvre tous de cadeaux. Les prétendants sont ravis. Plein d'illusions, ils s'exécutent. Les cadeaux affluent de partout, depuis l'île d'Ithaque et des îles de l'archipel. Ils sont magnifiques. On est en pleine fausseté, en pleine dérision. Ulysse est vainqueur dans un combat de gueux. Pénélope fait comme si elle allait enfin choisir un nouveau mari. Tout le monde est prévenu, même ce mendiant mystérieux. Quelque chose va se passer le jour d'après. La nuit va être capitale. Grâce à Pénélope. Mais que pense Pénélope? Qu'attend-elle de ce mystérieux mendiant avec qui elle veut parler? Le soir arrive. Les prétendants sont rentrés chez eux, laissant la salle de festin en grand désordre après leur bombance. Le père et le fils, Ulysse et Télémaque, décident de profiter de ce moment de répit pour appliquer leur plan. Demain, ils vont tous les deux régler leurs comptes aux prétendants dans le palais pendant qu'ils banqueteront. Ce ne sera pas facile. Leurs ennemis sont nombreux, 108, et ils ne sont que deux. Il faut donc les priver de toute possibilité de se défendre. Ils enlèvent les très nombreuses armes qui, comme dans toutes les demeures de grands héros, tapissent les murs de la salle. Ils emportent les lances, les casques, les boucliers. Athéna les aide en faisant briller dans la salle une lumière divine. Télémaque, ce jeune homme qui en fait n'a encore jamais rien vu, n'en revient pas.
Athéna, portant un flambeau d'or, en faisait naître une belle lumière. Télémaque, à son père, dit soudain :
« Oh mon père, je vois ici un grand prodige. Partout les murs des salles, les travées merveilleuses, les poutres de sapin et les colonnes élevées brillent aux yeux comme illuminées par la flamme. Un dieu doit être ici, de ceux qui règnent sur le ciel. »
Ulysse, en bon père expérimenté et sûr de lui, rabroue Télémaque et lui dit d'aller se coucher. Il sait qu'il va affronter Pénélope, d'une manière ou d'une autre, et qu'il devra juger de la loyauté de ses servantes. C'est du sérieux. Son jeune fils n'a plus rien à faire avec lui.
L'ingénieuse Ulysse alors lui répondit :
« Tais-toi, maîtrise tes pensées et ne questionne pas. Ce sont là les façons des dieux qui règnent sur l'Olympe. Va plutôt te coucher, et moi je resterai ici pour éprouver encore un peu ta mère et les servantes. Elle va me poser 1000 questions dans son chagrin. »
Télémaque va dormir pendant qu'Ulysse veille, méditant sur la manière dont, avec l'aide d'Athéna, il va supprimer les prétendants. C'est alors que Pénélope apparaît. Elle est descendue depuis sa chambre et vient s'asseoir près du feu. Ses servantes lui avancent un siège magnifique, d'ivoire et d'argent, couvert d'une toison épaisse. Pour les pieds, il y a un escabeau. Les servantes débarrassent la vaisselle des prétendants et sortent. L'une d'entre elles ne peut pas s'empêcher avant de partir d'insulter Ulysse, le pouilleux. Pénélope s'emporte contre elle et la menace de mort. Elle demande qu'on apporte un beau siège au mendiant et qu'il soit comme le sien, couverte d'une toison. Le face-à-face a lieu après 20 années. Pénélope commence directement. Elle demande tout de suite à Ulysse son identité.
« Étranger, voici ce que je veux d'abord te demander. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quels sont tes parents et ta ville ?»
Ulysse fait le compatissant. Il refuse d'abord de répondre, car sa vie est tellement misérable qu'il ne veut pas, en la racontant, ajouter du malheur au malheur que connaît Pénélope. Et s'il se mettait à pleurer parce que son histoire est triste, il ne voudrait pas qu'elle s'irrite et croie que c'est parce qu'il a bu trop de vin. Pénélope lui demande de ne pas faire de chichi. Sa tristesse à elle est telle qu'elle se trouve au-delà de toute bienséance, de toute norme. Le moment, selon elle, est dramatique. Elle ne peut plus échapper au mariage avec un prétendant. Elle ne peut plus inventer une ruse comme elle l'avait fait auparavant. Elle raconte à Ulysse comment, pendant 3 ans, elle a trompé les prétendants. Elle leur a demandé d'attendre qu'elle ait fini de tisser un linceul pour le vieux père d'Ulysse. Elle tissait le jour et la nuit, elle défaisait le tissage. Mais elle a été trahie par ses servantes et elle a dû finir ce linceul. Il n'y a plus d'échappatoire. Elle insiste pour qu'Ulysse lui dise enfin qui il est, comme s'il y avait un rapport entre le miracle qu'elle attend pour échapper au mariage et la présence de ce mendiant. Ulysse fait alors un de ses mensonges habituels, comme quoi il est crétois. Cette fois, il en rajoute. Il invente qu'il est issu d'une grande lignée royale. Il était riche, mais Zeus l'a dépouillé de tout. Il présente la Crète comme un pays merveilleux, un pays de cocagne, aux très nombreuses villes, pas une petite île rocailleuse et soumise au désordre, comme Ithaque. La Crète est comme un idéal. Ils vivent ensemble des habitants venus de toutes les parties de l'univers grec. On y parle beaucoup de langues. C'est un pays aimé de Zeus, qui régulièrement venait donner des conseils politiques à son fils Minos, le premier roi de la Crète. Lui-même, le mendiant, serait le petit-fils de ce roi Minos. Il serait de sang royal, et même de la descendance de Zeus. Il dit même que du temps de sa grandeur, il a reçu et fêté chez lui Ulysse pendant 12 jours, alors qu'il se rendait à Troie et qu'une tempête l'avait détourné et obligé à relâcher en Crète. Tout cela est faux, mais sonne si vrai. Pénélope est bouleversée.
Tous ces mensonges, il leur donnait l'aspect de vérité. Pénélope, à l'entendre, sanglotait, sa peau fondait, comme la neige fond sur les hautes montagnes, qu'a fait descendre le zéphyr et que chasse Borée, et en fondant fait se gonfler le cours des fleuves. Ainsi, versant des pleurs, ses belles joues fondaient à pleurer son mari assis près d'elle. Alors, Ulysse eut pitié dans son cœur de sa femme qui sanglotait. Ses yeux restaient pourtant comme de la corne ou du fer fixes sous les paupières. Pour sa ruse, il cachait ses larmes.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde et mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marins. ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Pierre Judet de la Combe raconte le tout premier face-à-face de Pénélope et d'Ulysse, qui a l'aspect d'un mendiant.
Pénélope, elle devient...
Jean-Pierre Vernant, helléniste.
Un second Ulysse. Il y a entre ces deux protagonistes une espèce d'échange et de rivalité. Ulysse est un menteur fieffé, c'est un rusé, c'est un faucheton, il n'arrête pas. Et la première fois qu'il voit Pénélope, c'est pour lui raconter des sornettes. Il lui raconte qu'il est un type qui a reçu avec son frère Idoménée Ulysse 10 ans auparavant, ou même 20 ans auparavant, et qu'il a couvert de cadeaux, etc. Et elle se méfie. Elle se méfie de ce mendiant. Elle en a vu un tas qui, pour être bien reçu, raconte qu'ils ont rencontré Ulysse dans le passé. Alors elle lui dit une preuve, et il dit « Oui, je vais te dire comment il était habillé ». Naturellement, il peut le lui dire. Mais il dit le vrai pour mentir, pour que son mensonge soit crédible. C'est-à-dire que de même que les identités de chacun de nous et d'Ulysse se brouillent, le rapport entre le mensonge du récit, le mensonge littéraire, et la vérité des faits se brouille aussi, on ne sait plus rien. Et Pénélope, donc, elle est toute méfiante.
Pénélope pleure, mais elle demande des preuves. Comment était habillé Ulysse lors de cette rencontre? Ulysse, évidemment, sait répondre, il la convainc. Mais il s'agit d'un événement lointain dans le passé, qui ne dit rien encore d'un retour possible d'Ulysse. Le mendiant dit que récemment, il a entendu parler d'Ulysse et qu'il allait revenir très bientôt. L'Ulysse mendiant invente une histoire qui mêle le vrai et le faux. Il parle de l'île du soleil, de la mort des compagnons d'Ulysse noyés parce qu'ils avaient tué des vaches sacrées. Il parle des merveilleux Phéaciens. Ulysse, selon le mendiant, aurait dû rentrer depuis longtemps, mais il aurait décidé de courir le monde pour accumuler des richesses, et il en aurait plein. On pourrait croire que ce n'est pas trop délicat de dire à Pénélope qu'Ulysse n'a pas tout fait pour la revoir au plus vite. Mais il s'agit de montrer que malgré le temps écoulé, malgré les malheurs, les manques, Ulysse est toujours le même, tel que Pénélope l'a connu autrefois. Le faux mendiant ajoute que d'après ce qu'il sait, Ulysse est méfiant et se demande s'il serait en sécurité à Ithaque. Par précaution, il aurait demandé à un oracle de Zeus s'il doit rentrer chez lui au grand jour ou clandestinement. En tout cas, son bateau serait prêt pour un retour rapide. Le mendiant prête serment. Il jure que tout ce qu'il dit est vrai. Pénélope, émue, veut exprimer sa reconnaissance envers ce mendiant si informé et si solidaire. Elle lui promet un lit, des vêtements, un bon bain le lendemain. Et en attendant, elle lui propose qu'une servante lui lave les pieds. Ulysse refuse, dit qu'il n'aime pas ce luxe. Même quand il était riche, il dormait à la dure. Pour le bain de pieds, il refuse d'abord, puis il accepte, mais à condition que ce soit une vieille femme qui le lave.
Un bain de pieds ne serait pas davantage agréable à mon âme. Et nul ne touchera mes pieds, aucune des femmes qui se trouvent au service de la maison. À moins que tu ne trouves une vieille femme dévouée qui ait passé par tant d'épreuves que moi, à celle-là, je permettrai de toucher mes pieds.
Pénélope comprend très bien qu'Ulysse se méfie des jeunes servantes. Elle pourrait se moquer de lui, tellement moche comme il est. Il est dégoûtant pour la jeunesse. Elle demande alors à une très vieille servante, du nom d'Euryclée, de laver les pieds de son hôte. Cette servante est pleine de sagesse, dit-elle, et elle a été la nourrice d'Ulysse. Elle est faible avec l'âge, mais elle saura faire.
Allons, sage Euryclée, lève-toi maintenant. Lave cet homme qui a l'âge du maître. Ulysse aussi, sans doute, a déjà ses pieds là et ses mains là. Dans le malheur, en effet, les mortels vieillissent vite.
Tout est fait pour que l'on assimile le vieux mendiant et Ulysse. Pénélope n'a en fait aucune idée de l'apparence de l'Ulysse réel. Elle s'accroche à ce qu'elle voit et assimile l'Ulysse absent, invisible, à l'homme qu'elle a sous les yeux. Et c'est là qu'un coup de théâtre pourrait se produire. Mais Homère, toujours plus malin qu'on ne pense, fait tout pour qu'il ne se produise pas. La vieille nourrice commence par se lamenter sur l'absence d'Ulysse. Elle dit qu'elle n'a pas pu prendre soin de lui jusqu'au bout, puisqu'il a disparu. Elle regarde le mendiant, puis proclame haut et fort qu'il ressemble énormément à l'Ulysse qu'elle a si bien connu.
Beaucoup d'autres infortunés sont venus au palais, mais je dis que pas un ne ressemblait autant que toi pour la taille, la voix et les pieds à Ulysse. L'ingénieuse Ulysse alors lui répondit
« Ô vieille, ainsi disaient tous ceux qui nous ont vus l'un et l'autre, que nous avions beaucoup de traits communs, comme toi-même le remarques finement. »
C'est comme si, pour la reconnaissance d'Ulysse tant attendue, Homère jouait au chat et à la souris avec nous. Euryclée, la nourrice, s'approche avec un chaudron plein d'eau. Ulysse prend peur. Il est sûr que sa vieille nourrice va le reconnaître. Il porte sur la jambe un signe inoubliable qu'elle verra nécessairement. Il va s'asseoir loin du foyer, dans l'ombre. La nourrice commence à le laver et tout de suite, elle reconnaît son Ulysse. Sa jambe porte une cicatrice bien visible, remarquable. La trace d'une blessure ancienne due aux canines d'un sanglier lors d'une chasse. On ne peut pas se tromper.
Cette blessure, en tâtant du plat de la main, la vieille l'a reconnue et aussitôt en laissa choir le pied. La jambe heurta le chaudron. Le bronze retentit. Le chaudron bascula et l'eau ruissela sur le sol. La joie et la douleur saisirent son esprit. Ses yeux se remplirent de larmes. Sa voix chaude se brisa. En prenant le menton d'Ulysse, elle lui dit
« Mais oui, tu es Ulysse, mon enfant. Je n'ai pas su te reconnaître avant d'avoir touché tout mon seigneur. »
Euryclée tourne son visage vers Pénélope. Elle voudrait l'avertir de la présence de son mari. Mais Athéna, qui veut absolument que Pénélope continue à ne pas reconnaître Ulysse, s'arrange pour que ça n'ait pas lieu. Elle détourne l'esprit de Pénélope.
Mais la reine ne put ni voir ses yeux ni deviner, car Athéna détourna ses pensées.
Homère fait comme si la reconnaissance des deux époux pouvait avoir lieu à cet instant. Il fait tout pour nous y préparer. Et sans doute connaissait-il des versions de cette histoire qui situaient là la révélation de la vraie identité du mendiant. Mais au dernier moment, il freine. Il détourne son récit de manière assez incroyable. La nourrice allait parler. Elle tourne ses yeux vers Pénélope. Mais Athéna fait en sorte que Pénélope ne remarque rien, à l'esprit ailleurs, ne fait pas attention. C'était à un cheveu près. Pour éviter que la nourrice n'ait malgré tout l'envie de parler, Ulysse use de la violence et de la menace, malgré toute sa tendresse pour elle.
Ulysse alors, en avançant la main, lui prit la gorge de la droite et de la gauche l'attirant à lui, parla.
« Nourrice, tu veux donc me perdre? C'est toi qui m'as porté sur ton sein. » Aujourd'hui, ayant beaucoup peiné après 20 ans d'absence, je reviens dans ma patrie. Mais puisque tu m'as reconnu, grâce à un dieu, tais-toi, de peur qu'une autre dans les salles ne l'apprenne. Voici ce que je dis, et je ne parle pas en l'air. Si un dieu m'aide à écraser les nobles prétendants, toute nourrice que tu sois, je ne t'épargnerai pas quand je massacrerai les autres femmes dans mes salles.
Mais qu'est-ce que ça changerait vraiment si Pénélope reconnaissait Ulysse à ce moment-là? Pourquoi Athéna et Homère tiennent-ils à ce poids à l'incognito d'Ulysse? Est-ce d'abord pour éviter qu'une servante indiscrète ne découvre la vérité et la communique au prétendant? Sans doute, ce serait une catastrophe. Mais il y a sans doute plus. Homère multiplie les scènes de reconnaissance. D'abord avec Télémaque, puis avec le chien Argos, puis avec la nourrice Euryclée. Plus tard, ce sera enfin avec Pénélope. Chaque fois, c'est différent. Ce n'est pas le même Ulysse qui se fait reconnaître. Télémaque ne connaissait en fait pas son père. Ulysse se présente à lui comme une personne d'autorité, un père qui le rabroue et s'impose. Le chien, ému à en mourir, a une reconnaissance immédiate. La nourrice et Pénélope n'ont pas connu le même homme. La nourrice était là à sa naissance. L'Ulysse dont Pénélope se souvient est l'homme qui l'a séduite autrefois, celui qu'elle a épousé et qui était roi. C'est lui qu'elle attend. Peut-être que face à elle, il ne peut pas seulement dire « Je suis Ulysse », preuve à l'appui. Ulysse n'est pas seulement un corps marqué de manière indélébile par un accident de chasse. Pour véritablement revenir chez lui auprès de Pénélope, il doit passer par des épreuves décisives qui font qu'il va réussir à la conquérir à nouveau, là où les prétendants vont échouer. Avant d'être à nouveau accepté par elle, il devra montrer que, comme autrefois, il est digne d'elle. Il devra éliminer tous ses rivaux et redevenir le roi de son pays. Pénélope va s'employer à imposer ces épreuves-là. Et d'un autre côté, peut-être qu'Ulysse ne peut se découvrir à Pénélope que s'il est sûr d'elle, de ce qu'elle est devenue après 20 années. Lui aussi, il la met à l'épreuve. Homère ne nous dit rien. Il nous laisse travailler. Il slalome entre les récits possibles. Pénélope reconnaît Ulysse ou ne le reconnaît pas. Ulysse se dévoile ou ne se dévoile pas. Homère frôle un récit possible, puis passe à un autre. À nous de nous faire notre idée.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Every now and then I get a little bit lonely. You're never coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous. The best of all the years I've gone by. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Bright eyes, every now and then I fall apart. Bright eyes, every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. We'll only be making it right. We'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. Your love is like a shadow on me all the time. I don't know what to do. I'm always in the dark. We're living in a powder cake and giving up sparks. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. Once upon a time I was falling in love, and now I'm only falling apart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Fall apart, bright eyes. Every now and then I fall apart, and I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever, and we'll only be making it right, 'cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. Your love is like a shadow on me all the time. I don't know what to do, I'm always in the dark. We're living in a powder cake and giving off sparks. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. Once upon a time I was falling in love, but now I'm only falling apart. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. of the heart.
Pierre Judet de Lacombe évoque la cicatrice d'Ulysse, signe certain de son identité.
Cette cicatrice à la jambe a une longue histoire. Homère la raconte. Elle est liée au grand-père d'Ulysse, au père de sa mère, un certain Autolycos, dont nous avons déjà parlé. Autolycos était quelqu'un de spécial. C'était un grand voleur, un fourbe, un tricheur. Ce qui n'est pas étonnant, car il était le fils d'Hermès. Le dieu lui a transmis l'art de tromper, de voler, de s'enrichir sans se faire prendre. Autolycos était très doué. Il pouvait vous voler un beau cheval, puis vous donner à la place un âne galeux. Et on était content. Il enlevait une jeune fille et la remplaçait par un vieillard boiteux. Et on n'y voyait que du feu. Quand Autolycos apprend que sa fille, Anticlée, qui a épousé le héros bien méritant Laërte, vient d'avoir un garçon, il se précipite pour le voir. La nourrice Euryclée, celle qui a lavé les pieds d'Ulysse et l'a reconnue, joue alors un grand rôle. Elle demande à ce grand-père de trouver un nom pour son petit-fils. D'habitude, le petit-fils prend directement le nom du grand-père. Là, Autolycos va donner à Ulysse un nom qui évoque sa vie de Forban. Autolycos dit « Appelez-le Odysseus ». C'est la forme d'origine du nom d'Ulysse. De là vient le titre du poème qui lui est consacré, « Odyssée ». Les Grecs disaient parfois « Olysseus » au lieu d'Odysseus, d'où le nom « Ulixès » en latin, qui a donné notre Ulysse. Odysseus est, comme on dit, un nom parlant. Il a un sens. Le nom évoque le verbe « odysomai », qui veut dire « irriter, fâcher quelqu'un ». Odysseus est donc le fâché, le hargneux. Le grand-père Autolycos tenait à ce nom, car, dit-il, il est fâché contre plein de gens, ceux qu'il a dépouillés et qui finissent par s'en rendre compte et se plaignent, ou ceux dont il convoite la richesse. Mais la fâcherie peut aussi aller dans l'autre sens. Il est celui qui fâche, qui met en colère. Ulysse Odysseus est à la fois l'énervé et l'énervant. Il est rusé, fourbe, comme son grand-père Autolycos, et comme son arrière-grand-père, le dieu Hermès. Il s'énerve souvent quand on essaye de l'humilier, comme le font les prétendants. Et il énerve pas mal de monde, humains et dieux, à cause de ses tours, de sa manie de toujours s'en sortir, sans respecter les règles. Le grand-père, par le nom qu'il donne, oriente le destin d'Ulysse dès sa naissance. Il va influer sur sa vie à un autre moment décisif. Autolycos avait demandé que son petit-fils vienne le voir dès qu'il aura grandi. Adolescent, Ulysse se rend chez Autolycos. On le fête en sacrifiant un grand taureau qui sera mangé pendant toute une journée. Le lendemain, on organise avec toute la famille une chasse aux sangliers. Ulysse y participe. C'est son entrée dans l'âge adulte.
Lorsque parut, naissant dans le matin, l'aube aux doigts roses, on partit pour la chasse avec les chiens et tous les fils d'Autolycos. Et le divin Ulysse parmi eux marchait. On atteignit le mont Abrupt, vêtu de bois, du Parnasse. On entra dans les gorges venteuses. Le soleil commençait à illuminer les campagnes, sortant des flots profonds et paisibles de l'océan. Les chasseurs atteignirent un vallon. Au-devant d'eux, les chiens couraient, suivant des traces, et derrière venaient les fils d'Autolycos. Parmi eux, le divin Ulysse marchait, non loin des chiens, tenant la lance de grande ombre.
Ulysse marche en tête, bien armé. Les chiens n'ont pas vu un sanglier. Il s'était caché au fond d'un taillis qui ne laissait passer ni les vents humides, ni les rayons du soleil. La bête surgit d'un seul coup devant Ulysse. Ulysse se jette sur lui avec sa lance, mais le sanglier est plus rapide. Il l'attaque et le heurte près du genou et emporte un morceau de chair, sans toucher l'os. Ulysse réagit en touchant le sanglier à l'épaule avec sa lance. Il le tue. Ulysse est blessé, le sang s'échappe, il est en danger. On lui met un garrot et on le rétablit avec des incantations, comme faisaient les médecins à l'époque, qui recouraient aussi à la magie. Ulysse est sauvé et vainqueur. On l'accueille avec joie, on lui offre une masse de cadeaux. C'est un homme maintenant, marqué à vie par son exploit. Cette aventure est comme une initiation. En forêt, dans un lieu sauvage, touffu, Ulysse trouve plus fort que lui. Il est blessé. Mais il est finalement vainqueur. Il a un moment d'absence, sa vie est en danger, il faut le reconstituer. Puis il est intégré au groupe mâle qui entoure son grand-père. Homère est bizarre quand même. Il nous raconte des épisodes marquants de l'enfance et de la jeunesse d'Ulysse, des épisodes qui constituent son identité par son nom, par son passage chez les adultes, grâce à une blessure et à un exploit. Mais il le fait au moment précis où l'identité d'Ulysse, à peine découverte, doit absolument être cachée. Par là, Homère nous montre qu'il y a plusieurs Ulysse. Celui de la nourrice, celui de Pénélope, ce n'est pas le même. La nourrice, elle, a connu Ulysse dès sa naissance. C'est elle qui s'est assurée qu'il ait un nom, Odysseuse, puis qui l'a nourri, soigné, jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'il soit blessé par ce sanglier. Son Ulysse est d'abord celui des tout débuts et de sa formation. Ce temps-là, Pénélope ne l'a pas connu. Elle veut retrouver celui qu'elle a épousé, l'homme mûr qui la sauvera, à condition qu'il ne soit pas trop démoli par la vieillesse. Il faudra une autre scène de reconnaissance après. Pénélope n'a rien vu, rien remarqué de ce qui s'est passé entre la nourrice et Ulysse. Mais elle va fortement faire bouger les choses. Elle va parler d'un autre signe, pas un signe clair, indubitable, facile à reconnaître comme l'est la cicatrice, mais un signe complexe, ambigu, un rêve. Elle demande au mendiant de le lui expliquer. Elle pense que ce rêve, s'il est bien compris, va la faire sortir de l'impasse affreuse où elle est. Elle donne donc beaucoup d'autorité à cet inconnu, à ce misérable, comme si c'était la seule personne à qui elle pouvait parler. On est dans l'inattendu, l'improbable. D'abord, elle rappelle à Ulysse à quel point elle est torturée. Elle ne dort pas la nuit et se lamente comme se lamente le rossignol. Elle est devant un choix crucial, impossible à trancher. Doit-elle rester avec son fils et être fidèle au lit de son époux et sauver le patrimoine? C'est dans ce sens que pousse l'opinion publique à Ithaque. Mais alors, que faire des prétendants? Ou bien doit-elle épouser le plus riche et le plus généreux d'entre eux? Télémaque, dit-elle, est devenu grand. Il a le droit de devenir roi. Et il lui demande avec insistance de se marier, car il veut être libéré de ses brigands. L'impasse est totale. Elle espère que le mendiant l'aidera à en sortir. Pour qu'il l'aide, elle lui raconte un rêve, passablement obscur et surprenant, un rêve qui l'obsède. Pénélope a rêvé qu'elle voit dans sa maison un troupeau d'oies. Elles sont 20. Les oies mangent calmement du grain qu'on avait trempé dans l'eau pour l'attendrir. Cette vision heureuse la réjouit. Ces oies font partie de sa richesse. Mais voilà qu'un aigle fonce sur les oies et les massacre toutes avec sauvagerie.
Un grand aigle au bec crochu, surgissant des montagnes, brisa la nuque à toutes, les tuant. Ensemble, elles gisaient dans la demeure. Il regagna l'azur.
Ce massacre fait pleurer Pénélope. Des femmes d'Ithaque l'accompagnent dans ses gémissements.
Moi, alors, je pleurais et je criais, toujours en songe. Des Achéennes aux beaux cheveux accouraient pour m'entourer, geignant piteusement sur le massacre de mes oies.
Le rêve continue, et surprise, il s'interprète lui-même. Toujours dans le rêve, l'aigle massacreur explique en langage humain à Pénélope le sens de ce qu'il a fait.
L'aigle revint et se posa sur le rebord du toit, disant pour m'apaiser avec une voix de mortel.
Rassure-toi, fille du très fameux Icaros. Ce n'est point songe, mais vision favorable et certaine. Les oies, ce sont les prétendants. Et moi qui fus cet aigle tout à l'heure, je suis ton époux revenu, qui vais faire subir aux prétendants un sort infâme.
À ces mots, le sommeil doux comme miel m'abandonna. Cherchant des yeux, je vis les oies dans le palais, piquant le grain dans la mangeoire comme à l'ordinaire.
Le rêve dit donc lui-même qu'il n'est pas un rêve, mais une vision claire de la réalité. Le vrai Ulysse, qui est interrogé sur le sens de ce rêve, confirme. Il ne peut que redire ce qu'a dit l'Ulysse du rêve par la bouche de l'aigle. Il n'y a rien à interpréter. La mort attend tous les prétendants, sans exception. Mais il reste que le rêve n'est pas si clair que ça. Il a plusieurs sens. Il faut interpréter. D'abord, pourquoi 20 oies? C'est exactement le nombre d'années pendant lesquelles Ulysse a été absent. Tout cela va finir. Et pourquoi Pénélope est-elle affligée par la mort de ses oies, si ses oies sont les prétendants qu'elle déteste? Ce n'est sans doute pas qu'elle éprouverait de la tendresse plus ou moins avouée pour des jeunes gens qui la persécutent. Le rêve semble plutôt vouloir dire que ce qui va arriver sera d'une violence inouïe, sera cruel. Tant de vies vont disparaître. Le désordre va régner. L'aigle semble dire « Ne t'en fais pas, Ce massacre sanglant, c'est pour ton bien, pour ta délivrance, même si c'est impitoyable et à faire pleurer. Pénélope a bien entendu l'explication qu'a donnée le mendiant sur le ton de la certitude, mais elle n'y croit pas. Ce serait trop beau. Elle se lance alors dans une théorie très originale sur les rêves, une théorie inconnue ailleurs. On ne la trouve développée que là, mais par la suite, elle deviendra très célèbre. Pénélope affirme avec conviction qu'il y a deux types de rêves, les véridiques, qu'on peut croire, et les faux, les rêves trompeurs. Cela, c'est encore banal. Mais elle ajoute une précision. Les rêves nous arrivent par des portes. Ces portes ne sont pas faites avec le même matériau, selon que le rêve est vrai ou faux.
La sage Pénélope alors lui répondit.
Les songes étrangers sont confus et parlent peu clair. Ils sont bien loin de tous se réaliser pour les hommes. Car pour les songes vacillants, il est deux portes. L'une est faite de cornes et l'autre l'est d'ivoire. Les rêves arrivant par l'ivoire scié sont rêves dérisoires, n'apportant que paroles vaines. Mais ceux qui entrent par la corne bien polie font arriver la vérité pour le mortel qui les voit. Or, je doute que soit venu par là ce redoutable songe. Nous en aurions, Télémaque et moi, trop de joie.
Deux portes, donc, pour qu'arrivent les rêves. Une porte de corne, une porte d'ivoire. La corne est pour les rêves qui annoncent un vrai événement, l'ivoire, et pour les rêves sans objet. Pourquoi ? On a beaucoup spéculé. Homère nous laisse devant une énigme. L'ivoire est beaucoup plus rare, plus précieux que la corne. Il sert pour des ornements de grand luxe, comme dans cette scène le fauteuil sur lequel Pénélope est assise. Ce fauteuil est fait d'ivoire et d'argent. La corne, elle, est solide. Elle permet aux bêtes à cornes de se défendre, d'imposer leur volonté. La corne est près du cerveau. Or, c'est bien là que réside l'énergie, la puissance d'un être animal ou humain. Les hommes, qui n'ont pas de cordes, en ont adopté et adapté la puissance en construisant des arcs à partir de cornes. Ces arcs sont redoutables. Apollon, le dieu archer, le dieu qui dit le vrai dans ses prophéties, dieu particulièrement puissant, chérissait ce matériau, la corne. Un poète raconte comment, tout jeune encore, à l'âge de 4 ans, Apollon a construit pour lui-même, dans son île natale, à Délos, un sanctuaire qui était uniquement fait à partir de cornes.
Apollon composa un autel. Avec des cornes, il établit la base. Il consolida l'autel par des cornes. Tout autour, il jeta des murs de cornes. C'est ainsi que Phoïbos, Apollon, apprit à poser ses premières fondations.
L'ivoire, la corne. On aurait d'un côté avec l'ivoire ce qui est beauté et ornement et qui peut n'être que de l'apparence légère. Cela irait bien pour des rêves sans rapport avec la réalité. De l'autre côté, on aurait avec la corne du solide, du résistant, du vrai réel. Des interprètes anciens ont vu dans l'ivoire, l'ivoire des dents. Quand une parole sort de la bouche, on dit chez Homère qu'elle franchit la barrière des dents. Des rêves n'auraient donc que la consistance faible des discours, des paroles en l'air sans effet, tandis que d'autres auraient la puissance décisive des cornes du taureau. Pourquoi pas ? Pénélope semble bien dire qu'il ne suffit pas de parler, de se rassurer en interprétant un rêve par un langage optimiste, comme vient de le faire le mendiant. Il faut agir. Brusquer les choses comme agissent résolument les bêtes cornues.
Pour tous les autres personnages,
Jean-Pierre Vernant,
l'identité d'Ulysse est liée à la leur propre sous forme d'un rapport social. Il faut à Télémaque un père, il faut à Laërte un fils, il faut à Eumée un maître. C'est-à-dire que la reconnaissance d'Ulysse est en même temps une façon de remettre toutes les pièces dans leur place, dans le rapport qu'elles entretiennent avec les autres pièces sur l'échiquier du jeu. Tandis que Pénélope, elle n'a pas besoin d'un mari. Elle en a une centaine de prétendants qui, depuis des années, tournent autour d'elle et lui cassent les pieds pour dire « marions-nous, marions-nous ». Et que ça va d'ailleurs être le jour de son mariage, ça a été décidé grâce à Athéna. Elle ne veut pas un mari, elle ne veut Ulysse. Et même, le texte le précise, elle veut l'Ulysse de sa jeunesse. Et sa reconnaissance, c'est pas seulement de remettre les pions à leur place, c'est de retrouver un être auquel elle est liée par un lien qui est quoi ? Qui est ce qu'on peut appeler l'amour ? L'amour conjugal.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de la Combe.
By electric motors made by goblins in a factory overseas. They're there to buy drywall and other products that they can eat back at home on the sofa. They watch TV about a man named Chandler Bing, who died in a freak hot tub accident and spent his time drinking hot dog flavored water on a popular TV show called Tub Girls.
I don't wanna pay for anything. Clothes and food and drugs for free. If it was 1970, I'd have a job in a factory. I am a man that's made of meat. You're on the internet looking at feet. I hate almost everything that I see, and I just wanna disappear.
Okay. Alright. Okay. Alright. Okay.
Pierre Judet de la Combe parle de la complicité mystérieuse entre Pénélope et un vieux mendiant inconnu.
Pénélope va créer une très grande surprise. Elle prend l'initiative de manière tout à fait imprévue. Sans aucune transition, elle va surprendre son interlocuteur et proposer un moyen radical d'agir. On va retrouver l'énergie de la corne. Pénélope rappelle que le lendemain, elle doit se résigner à choisir un nouvel époux. Elle y est malheureusement obligée.
Voici l'aube innommable qui m'éloignera de la maison d'Ulysse.
Mais comme il faut départager les candidats, ils sont 108, Pénélope dit qu'elle va organiser une grande épreuve. Or, cette épreuve sera extrêmement difficile. Il s'agira de tendre l'arc qu'Ulysse a laissé à Ithaque en partant pour Troie. Cet arc est exceptionnel, il est fait en corne, et personne n'y a touché depuis le départ d'Ulysse. Avec cet arc magnifique, il faudra tirer une flèche, une seule, qui traverse un alignement de 12 haches plantées dans le sol. On n'aura droit qu'à un tir. Traverser 12 haches est une expression qui n'est pas facile à comprendre. On l'a interprétée de plusieurs manières. Comme il s'agit sans doute de haches doubles avec deux lames symétriques, on peut imaginer qu'il s'agit de faire passer la flèche dans l'ouverture prévue pour le manche entre les deux lames de la hache. Ou bien, il s'agirait de traverser un anneau de fer fixé au manche de chaque hache. On ne sait pas. Pénélope précise que c'est une épreuve qu'Ulysse connaissait bien. Il aimait autrefois réaliser ce genre d'exploit. La reine demandera à ses soupirants d'être du niveau de son ancien mari, ce qui évidemment sera impossible. Ulysse ne s'y attendait pas, mais il est ravi. Il sait qu'il pourra réussir cette épreuve, puisqu'il l'a réussi par le passé. Et il est sûr que les autres n'arriveront même pas à tendre la corde de cet arc. Ils seront tout de suite disqualifiés.
L'ingénieuse Ulysse alors lui répondit :
Digne femme d'Ulysse, ô vénérable Pénélope, ne va pas différer dans ta demeure cette épreuve. L'ingénieuse Ulysse arrivera ici avant qu'aucun d'entre eux, prenant l'arc poli dans ses mains, n'ait pu tendre la corde et traverser d'un trait le fer.
Pénélope se dit charmée par les paroles de son hôte. Elle pourrait continuer à l'écouter toute la nuit, mais le sommeil, dit-elle, a ses exigences. Elle laisse Ulysse dormir à l'entrée de la grande salle, tandis qu'elle rejoint sa chambre, ce qui est contraire à toute étiquette. La personne invitante, normalement, se retire en dernier. Là, elle laisse le mendiant veiller sur le palais. C'est une marque de confiance. Les deux époux vont se coucher, séparément. Ulysse fait son lit dans le vestibule avec les peaux des bêtes que les prétendants ont écorchées pour les manger. Il enrage quand il voit des femmes sortir du palais pour aller rejoindre des prétendants. Il est prêt à les tuer tout de suite, mais il se raisonne.
Patience, mon cœur. Tu supportas chiennerie pire le jour où le cyclope à l'âme emportée dévora tes vaillants compagnons. Tu te contins jusqu'à ce que ma ruse nous tirât de l'antre où je pensais mourir.
Ainsi, dit-il, interpellant son cœur dans sa poitrine, son âme, comme à l'encre, demeura obstinément patiente. Mais lui se retournait dans tous les sens.
Athéna survient et verse sur cette agitée le bienfait d'un profond sommeil. Au moment même où Ulysse s'endort, Pénélope se réveille et, dans son immense tristesse, appelle la mort jusqu'au matin. Un lien subtil, improbable, s'est noué entre le mendiant et la reine. Une étrange complicité qu'on aurait du mal à nommer. Le jour va se lever. Ce sera un grand jour, un jour de colère, celui du châtiment des prétendants. Attendons la semaine prochaine.
Dans ses récits,
Julia Sissa, historienne.
La femme est un trophée, parfois inatteignable, mis à concours entre des hommes. Ici, c'est différent. C'est Pénélope qui mène le jeu. Elle prend l'initiative sans demander la permission à qui que ce soit, sans faire appel à aucun adjuvant et sans même recevoir d'inspiration divine. Elle compte sur ses propres forces et sur son désir, sans l'aide ni des hommes ni des dieux. Elle fait tout, toute seule. Cette autonomie est inattendue dans le monde homérique. Dans cet univers enchanté, l'action et la pensée dépendent souvent des influences divines. À la différence de beaucoup de héros, y compris Ulysse, qui peuvent seulement prendre une décision quand un dieu ou une déesse dépose cette décision dans leur diaphragme, l'héroïne de l'Odyssée emploie spontanément sa propre acuité d'esprit pour orienter le cours de sa vie.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Andrea Lechêne. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Cette émission a été mixée par Nadège Antonini. Bonne journée sur France Inter.